Radio. Radio. Radio.
Would you like a cup of coffee?
That's the most stupid thing I ever heard of.
I promise.
Monsieur le professeur, je vous dis merde.
We're going to have lots of happy times together.
Clap. Le cinéma qui s'écoute.
Bonsoir et bienvenue sur Onde Courte dans l'émission Clap, le cinéma qui s'écoute, en compagnie de Boubou qui co-anime cette émission avec moi. Bonsoir Boubou.
Bonsoir Thomas.
Comment allez-vous Boubou?
Mais ça va très bien.
Je suis en train de tourner des pages comme un con parce que j'ai oublié les prénoms des autres gens qui sont là, parce qu'il y a plein d'autres gens ici et j'avais peur d'en oublier. Bonsoir Baptiste.
Salut.
Bonsoir Xavier.
Bonsoir.
Bonsoir Loris.
Bonsoir.
Bonsoir Hugo.
Salut.
Et bonsoir Maroun.
Marouani, salut.
Ok, donc toi on n'a pas le droit de faire des surnoms, c'est génial, ça commence.
Si, Marou.
Les emmerdes. Marou, pas Maroun, connard. C'est pour ça.
Bah oui, bah voilà.
Bah écoute, est-ce qu'on les laisse se présenter ou est-ce que tu les présentes? Parce que moi j'ai la flemme.
Non, je pense qu'ils peuvent se présenter même.
Bah voilà, c'est bien ça. C'est... J'adore ce genre de mission. On va commencer par Baptiste dans l'ordre comme ça.
Allez, très bien. Un parcours, moi je viens de Picardie, j'ai fait pas mal d'études dans le nord de la France avant d'atterrir à Toulouse.
Pas de blague sur la consanguinité, on est d'accord.
Tu peux, de toute façon, il y en a, j'attends de voir les régions de chacun, déjà. Et après, celui qui lance les hostilités, on poursuit après. Mm-hmm. Et voilà, écoute, on peut me qualifier de Toulousain du coup, allez, on va dire ça. Et puis j'ai fini mes études quand même il y a 3 ans. Donc, moi je suis un petit. On va parler d'écriture. Certains vont se qualifier de scénariste. Moi je me qualifie pas de scénariste.
Ok, voilà.
Je me qualifie pas.
D'accord, c'est ça. Même pas d'ouvrier qualifié. Tu veux être ouvrier, tu te qualifierais pas non plus quoi.
Non, je laisse les ouvriers pour me qualifier si vous voulez.
Très bien. Merci beaucoup.
Je t'en prie.
Fais attention en posant ta bière. Pardon, ta bouteille d'eau. Évidemment.
C'est la radio, on sait pas qui c'est.
Bah, d'ailleurs, Xavier. Toi, qu'est-ce qui t'es quoi?
Eh ben, comme Baptiste, je ne viens pas de Picardie, mais j'ai fait les SAV, ce qui est quand même un point commun.
Les SAV, École supérieure de l'audiovisuel.
Exactement, hein. À Toulouse. Et après quoi, j'ai fait deux courts-métrages, un produit par Le Grec et un autre qui vient de sortir. Et je suis en écriture, non, un financement d'un troisième et en écriture d'un autre. Voilà.
Ok, ça va.
Je m'ennuie.
Je comprends. Hugo ?
Moi, je viens pas de Picardie non plus. Ouais, je suis un Toulousain de souche.
De souche.
Et comme toutes les personnes présentes ici, j'ai fait des SAV aussi.
Mm-hmm. Voilà. Toutes les personnes sauf moi.
Sauf toi.
Bah,
non,
oui,
mais oui, parce que vous pourrez... Et je fais quoi? Je fais plein de trucs différents pour essayer de gagner de l'argent et de devenir intermittent du spectacle. Et j'aimerais bien faire des films aussi. Mais j'en ai en écriture, mais il écrit plus trop en ce moment. Mais peut-être qu'il va s'écrire un jour. Et j'en ai d'autres aussi en écriture, mais c'est pas vraiment toujours des contextes compliqués. Voilà.
Oui, à la base, t'es monteur quand même.
Et à la base, je suis monteur, oui, pardon, c'est vrai que c'était important pour l'émission. Oui, je suis monteur aussi.
C'est important de film, pour toi aussi.
Parce que c'est de l'écriture. C'est important pour moi aussi, effectivement, Boubou.
Merci. Loris.
Ouais. je viens de l'Allier, Moulin. Voilà.
C'est cool.
On s'appelle les Aliénés, a priori. Voilà. J'ai aussi fait les SAV. Par la suite, j'ai réalisé un court-métrage produit que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Et je suis en train d'essayer d'écrire un long-métrage. En parallèle, un autre court-métrage et j'essaye de réfléchir à... En tout cas, j'ai des envies de documentaire aussi.
J'ai des envies de documentaire. C'est quoi ton envie de fraise de femme enceinte, toi, c'est ton...
J'ai une envie de documentaire.
J'ai une grosse envie de documentaire en ce moment.
Là, à la fois, j'ai l'impression que l'écriture et le mode de production est vraiment différent. Et du coup, ça se complète assez bien pour avoir une pratique un peu, si ce n'est complète, au moins complémentaire. Voilà.
Ok, j'ai rien compris.
Moi non plus.
Et Marou ensuite.
Moi aussi, je viens de l'ESSAV et là, je suis en production de court-métrage écriture, enfin ça. Et je commence à écrire un long, ou peut-être pas, on sait pas.
Et bon, on va commencer par toi. En fait, l'idée de cette émission, c'est de parler, donc, vous l'aurez compris, d'écriture de films et de différentes formes d'écriture. Donc on a entendu peut-être un petit peu de l'écriture au tournage, l'écriture au montage, et toi, c'est juste l'écriture. La première chose à laquelle on pense
là,
quand on parle d'écriture.
Là, je suis à l'étape d'écriture, ouais, juste écriture.
Ouais. Donc, et comment on fait pour écrire un film, hein? La question
on
simple.
On souffre beaucoup.
Ouais, pourquoi on souffre? Alors, parce que c'est un truc... Ah bah si, on rentre dans le vif du sujet, on met ses tripes sur le tapis. Mais d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait...
On peut peut-être écouter, on a un extrait du scénario.
Et voilà comment on souffre.
Voilà, ben on écoute ça.
Séquence 1, extérieur, place de village, jour.
Deux jeunes filles sont assises sur un banc, sur une petite place vide de village de campagne. Elles portent toutes les deux un masque en plastique qui couvre totalement leur visage. La blonde, assise de façon décontractée, porte un masque de blaireau. La brune, les bras croisés, porte un masque de chouette. Elle regarde droit devant elle, immobile. Le vent alourdi par un soleil d'été remue légèrement leurs cheveux.
Titre sur fond noir. Conte sous le solstice, chapitre 1, la rencontre. Séquence 2, intérieur, supermarché, nuit.
Mila, une jolie jeune fille brune aux longs cheveux noirs et bouclés, est accroupie dans le rayon d'un supermarché parmi d'autres inventoristes. Elle semble avoir une vingtaine d'années, elle est habillée d'un survêtement en coton bleu et d'un débardeur blanc avec des impressions dessus. Éclairée par les néons au-dessus de sa tête, son visage apparaît creusé et cerné. Elle scanne machinalement chaque code-barre de chaque produit. Au bout du rayon, le chef du magasin crie sur un inventoriste. Mila regarde la scène de loin. Puis, le chef du magasin commence à parcourir doucement le rayon en direction de Mila. Mila fuit son regard et se met à scanner les produits un par un devant elle. Elle fronce les sourcils.
Mila en voix off.
Mais carrément qu'on est des animaux.
Le chef passe doucement derrière elle. Mila le guette avec sa vision périphérique.
Et après, il y en a qui se sentent insultés. Ou plutôt, non. Si, insultés. Pourquoi ils se prennent au sérieux?
Dès que le chef est passé à quelques mètres, Mila le regarde continuer son chemin vers le bout du rayon.
La réussite, la cruauté... La lucidité.
Mila souffle un petit rire silencieux. Dès que le chef tourne au bout du rayon, elle prend au hasard un produit et avec rapidité, elle le scanne à 10 reprises, puis le remet sur le rayon. Elle pince un sourire et continue de scanner chaque produit comme si de rien n'était.
C'est con, ça. Au fond, ils veulent pas faire partie du vrai monde. Les animaux sont pas aussi prétentieux.
Elle s'arrête de scanner un moment.
Du coup, on n'est pas des animaux ?
Bon, alors ce qu'on ne voit pas là, c'est que pendant toute la lecture, Marou s'est caché sous son manteau. Qu'est-ce qui...
Je pense que c'est qu'elle a froid.
Ça... Oui, je pense que c'est qu'elle a froid.
La séquence là que vous avez lue, elle vient de changer tout à l'heure. Mmh. Ah, voilà. On a eu une discussion d'une heure avec la productrice et ce scénario, je dois le rendre vendredi. Et du coup, là, on était en train de discuter par rapport à ça et tous les passages de la voix off et tout ça sont remodifiés. Du coup, demain, ça sera autre chose.
Bah, c'est bien, on spoil rien.
Bah oui.
Mais du coup, tu parles de souffrance, on n'entend pas la souffrance. Pourquoi c'est une souffrance d'écrire ?
Bon, parce que déjà, ça fait un an et demi. À partir du moment que l'idée elle est née, non, en fait, j'ai commencé avec un autre scénario. Et où j'avais essayé de toucher d'autres types de thématiques qui étaient liées à la biculturalité et plein de choses, mais vu que ça me concernait de trop près, c'était foireux. Et au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Et j'ai commencé à écrire ce truc en parallèle, ce nouveau scénario. Pour me soulager, tout ça, parce que l'autre n'avançait pas et que je m'y retrouvais pas dedans. Et du coup, il y a ce scénario qui est né. Il est né, du coup, il y a un an. Et depuis, c'est comme si t'essayais d'accorder un piano depuis un an.
Ouais, je vois, d'accord. Donc en fait, ce qui est douloureux, c'est pas forcément l'écriture, c'est... L'écriture au sens premier G, c'est la réécriture et c'est la correction quoi, de son truc. Parce que t'as fabriqué le piano, mais il sonne super mal, quoi, selon toi.
Ouais, on va dire que c'est pas forcément pour toi que ça sonne mal... Mais c'est comme quand tu te réveilles le matin... Non, tu te réveilles le soir.
Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, je vois le genre de réveil. Ouais.
Et du coup, putain, c'est une trop bonne idée. Et le lendemain matin, tu te dis, ah, mais en fait, non, c'est nul. Et du coup, c'est ça, mais constamment et pendant un an. Bon, avec des intervalles un peu plus longues, mais quand tu écris ta première version de scénario, t'es plutôt content, parce que sinon, bah, tu le fais pas. Et au fur et à mesure, bah, ça se confronte à des regards différents. Tout le monde a envie d'accorder ce piano. À leur façon, il y a des fantasmes, il y a des, il y a plein de choses qui se projettent dessus. Et le plus difficile dans cette souffrance-là, si on essaie de la définir, c'est de garder le fil de base en fait, avec lequel tu as commencé à écrire.
Et justement, toi, quand tu commences à écrire, alors là, pour ce scénario, tu disais que ça a été un peu pour te sortir de quelque chose d'autre que tu étais en train de faire. L'idée, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as eu une idée de ton histoire de base? Tu as eu le début et puis la fin et tu as essayé de broder? Est-ce que c'est venu d'un coup? Est-ce que... Tu vois, cette petite étincelle d'inspiration-là, après, comment tu l'as...
En fait, c'était plus pétage de plomb. Ouais, et du coup, bah, en fait, j'ai écrit presque de façon instinctive. Et j'ai juste lâché tout ce que, dans l'autre scénario, n'y était pas, en fait. Et que... Mais que c'était pas forcément les choses dont j'avais en traité, mais c'était comme des visions qui s'enchaînaient les unes après les autres. Et jusqu'à arriver à une fin qui est restée floue quand même pendant à peu près 5-6 mois. Et voilà, je ne sais plus ce que tu dis après.
En fait, ça ne sert à rien de poser des questions précises, c'est ça qui est bien. Parce que les gens les oublient de toute façon en
parlant. Oui, enfin, oui. T'as fait une pause, on a pensé.
Mais c'est vrai.
Non, mais du coup, la douleur, parce que ça veut dire, si t'écris dans un truc instinctif au début, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va sortir de toi spontanément. Est-ce que la douleur, c'est pas... tout ce travail de réécriture, est-ce que la douleur, elle vient pas du fait d'essayer de transformer quelque chose qui vient de toi, qui a été spontané, vers quelque chose qui va être compris par des autres et de te faire déposséder de tes choses, tu vois ce que je veux dire?
Non, ça, quand je disais douleur, en fait, c'est peut-être quelque chose qui concerne là, maintenant, tout de suite, parce que je suis avec cette pression-là de rendre ça vendredi.
Et la meuf prend le temps de faire des émissions de radio.
Ça permet de s'aérer un peu, quand même. Et du coup, je sais plus, c'était quoi ta question?
Et voilà, qu'est-ce que tu
voilà, dis. Putain, non, mais bon, moi je vais arrêter de poser des questions parce que ça marche pas.
La
non,
douleur, que... c'est la
réécriture. Ah oui, c'est pas ça la douleur en fait. La réécriture et le fait de le rendre accessible, pour moi, c'est un apprentissage en fait. Du coup, c'est pas douloureux l'apprentissage. Ce qui est douloureux, c'est les moments où il y a confusion en fait. Et que cette confusion-là se fait entre. Toi-même, ton scénario et les envies des autres et les fantasmes des autres. Et que dans tout ça, tu dois garder, comme je disais, là, cette ligne, ce fil de base, mais que du coup, les moments voilà, de douleur, c'est plus ceux où tu perds ça, quoi. Et voilà.
Et ben, en fait, c'est un peu en confrontant son écriture solo à une espèce de réécriture collective, en se confrontant aux fantasmes des autres. C'est une transition que je suis en train de faire, hein. C'est pas... t'en fais pas.
Je dois répondre du coup ou pas?
Ouais, non, hoche la tête, personne ne le voit, t'en fais pas. Du coup, on va peut-être s'écouter un reportage sur un atelier d'écriture collective avant de passer à Hugo qui utilise ça. Lui.
C'est un reportage qui a été fait, qui a été réalisé par Raphaël Jourdain et qui parle d'un atelier d'écriture qui a été créé par Kaleidos Film, la super association qui fait cette émission.
Ah oui,
et voilà, j'en profite comme ça, je le cale.
Oui, bah c'est bien vu.
Mais voilà, du coup, une envie de se retrouver collectivement pour écrire chaque mois. Voilà, on va voir ce que ça donne.
Il prend un escalier, prend de la hauteur.
Non pas que je sois pas d'accord avec eux, nous sommes du même côté de la barricade, nous ne jouons juste pas de la même façon.
Il arrive sur un point de vue de la ville.
C'est la première année qu'on fait ça, donc ça date de septembre dernier, ça fait quelques mois, et on s'est vu... une petite dizaine de fois.
On fait un gâteau au soleil, on voit comment on s'organise pour la journée.
C'est la première fois qu'il fait printemps à la messe pour nous depuis la Kino Fiesta. La messe, la maison économie solidaire à Ramonville, où on a élu domicile, notre association, Kaleidos Film. On organise des journées où on écrit ensemble, ça s'appelle des réunions
atelier.
Création.
Ouais. Atelier création.
Atelier création même. On est 8 à la base dans cette équipe de création. Et du coup, on a 8 projets personnels. Et donc, on peut aussi travailler individuellement ou collectivement sur nos projets personnels. Et là, on a parlé pendant toute la matinée d'un premier film, celui de Boubou. Et maintenant, on va parler d'un second film, celui d'Hugo. Et avant ça, je crois que Boubou voulait nous raconter une jolie histoire.
Oui. Extérieur, devant le bungalow, jour.
Elle essaye de dormir, couchée sur le sable. Sa serviette est tachée d'un sang mal texturé. Le ciel est un peu trop bleu. Sa main attrape une poignée de sable qu'elle laisse filer entre ses doigts. Bruit de pas au loin.
On est revenu.
La petite fille. Maman, j'ai trouvé de beaux coquillages.
Elle ouvre les yeux et soupire. L'homme approche son visage émerveillé du sien.
Dis chérie, ça te dit...
Pause.
Un smoothie bananana.
Que tout black.
On était plusieurs à avoir des projets entamés, des projets de films, souvent de fiction, mais qui étaient écrits et... mais avec des vieilles versions, quoi, des choses où on sentait qu'on avait besoin d'aller plus loin, mais soit pas le temps, soit pas l'énergie de s'y mettre tout seul. Et donc on a proposé à tous ceux qui avaient un projet de se réunir ensemble une fois par mois avec cette idée de venir avec son projet et de aussi tous collectivement accepter de travailler sur le projet de celui qui en a un, quoi. On avait eu l'habitude de travailler ensemble à l'école et qu'on se connaît, enfin... C'est aussi un peu un truc de confiance, quoi. On l'a proposé à pas mal de personnes, mais à chaque fois, tu vois, là, on est 6 et on n'est jamais plus de 8 parce que, en fait, ça peut pas marcher si t'es trop, quoi.
Peut-être là, j'y arrive plus du tout, je sais pas pourquoi. Mais
Parce que t'as trop de choses, peut-être t'as d'autres choses.
Ouais, ouais, mais j'ai plein de trucs après, mais je veux dire dans ma tête, quoi, tu vois. Et je pense que c'est parce qu'on l'a trop théorisé aussi.
Moi, c'est et pareil, j'ai un peu le même problème. Ouais. J'ai un peu le même problème.
C'est un peu bizarre.
Trop de travail en amont, de recherche, ouais, de machin, et du coup j'arrive plus trop à m'imaginer, tu vois. C'est pour ça qu'une lecture, ça peut être pas mal.
On a un nouveau projet qui a été mené par... qui a été créé... L'initiative a été créée par Marou. C'est la Barque Solaire. C'est un projet collectif où, en gros, on a créé un univers d'anticipation dont l'idée principale était celle de Marou au début. Et ensuite, tout le monde peut écrire des scénarios qui se greffent à cet univers-là pour essayer de faire... un projet collectif où on peut créer ensemble, s'aider à tourner aussi. Tout le monde peut revenir avec des scénarios à eux et puis on peut se faire des lectures, améliorer la chose, réfléchir à l'univers ensemble, etc.
T'as écrit aussi pour la Barque Solaire ?
Ouais.
Ok. Et moi, tu as le scénario avec toi, là ?
Il est sur la grande.
D'accord. Toi aussi, t'as...
Moi, j'ai posté des versions de l'émission. Tu vas avoir des idées de scènes où tu veux absolument et ça va réaxer ton...
C'est ça.
Et il faut te laisser emporter par l'écriture, je crois. Ouais. Genre, de prendre un truc, tu t'écris ton machin, tout ça, et là, ta séquence, elle te plaît vachement. Et du coup, tu dis, ah putain, et là, du coup, ça va là. Et en fait, tu suis plus ton séquencier. Mais comme ça, t'auras de la vie dedans, quoi.
Et puis s'il y a des séquences que...
Et tu vas aimer tes personnages et tout ça, quoi.
Que tu veux prioriser.
Ils vont te surprendre, tout ça.
Qu'il y en a d'autres que tu peux... Que tu trouves que finalement, elles valent pas la peine d'avoir le focus complètement dessus. Tu les mets en arrière-plan, tu fais vivre des personnages derrière. Tu racontes des choses en hors-champ. Je pense que c'est passionnant.
On s'est dit que dans l'assaut, c'était vachement bien tout ce qu'on faisait. Sauf qu'on avait fait... On avait très peu avancé nos projets à nous et qu'en même temps on était chacun dans notre coin à essayer de, bah, je sais pas, d'écrire et tout ça, et que s'il y avait bien un moment où c'était pas mal de partager et de se donner des deadlines aussi, des moments fixes où comme ça t'es obligé d'avoir avancé parce que tu le montres aux autres, quoi. En fait, d'avoir l'exigence que ce soit bien pour les autres en face, pour les copains, et de se dépasser un peu tous les mois, enfin essayer une fois par mois, quoi.
Hugo, donc, on va parler d'écriture collective avec toi.
Oui.
Et pourquoi on va parler d'écriture collective avec toi ? C'est que tu as une façon d'écrire qui est un peu particulière, c'est-à-dire que tu écris avec tes acteurs directement, a priori ?
En fait, c'est de l'expérimentation pour le moment. J'ai fait ça deux fois.
Ça fait 30 ans que je le fais.
Ça fait 30 ans que je le fais, voilà. Non, en fait, là, le projet sur lequel je suis en ce moment, j'ai tenté une écriture du... J'ai commencé à construire l'univers un peu seul, et ensuite j'ai fait des résidences avec mes acteurs pour essayer de tester, du coup, qui ont été mis sur le projet beaucoup plus tôt qu'habituellement, pour essayer d'écrire la suite et le séquencier et tout ce qui s'ensuit avec eux, avant de revenir sur une phase un peu solitaire pour le développement du scénario. Pour le moment, c'en est là.
Ce que tu fais quand tu travailles avec ces acteurs-là, enfin, ce que tu avais fait pour ton... pour Rivedé, le film que tu as fait avant, c'est que tu avais mis en place un système de jeu de rôle avec tes acteurs pour qu'ils construisent des choses.
Ouais, alors mais en fait, il n'y avait pas que les acteurs qui comptaient là-dedans, c'était de manière générale avec toute l'équipe en fait. C'est-à-dire que l'idée c'était de moi en tant que réalisateur construire les bases d'un univers donné et qu'ensuite cet univers il puisse s'étendre et se personnaliser avec chaque personne de l'équipe et leur spécialité. Et du coup, j'avais donné beaucoup de liberté de ton à peu près toutes les composantes de l'équipe, dont les acteurs aussi. Mais, merde, je sais plus ce que je voulais dire. Je vais faire une petite pause en attendant de réfléchir. Oui, typiquement la déco, les costumes, tout ça, tous ces éléments-là. Ils n'avaient pas de directive claire et c'était eux qui devaient intégrer à partir du scénario, enfin créer à partir de scénario un univers, y mettre leurs pattes et le conserver tout le long. Moi, j'avais pas spécialement mon mot à dire là-dedans et je le laissais. Pour la déco, par exemple, le film se tourne dans un bateau et je lui ai demandé de décorer le bateau comme elle le voulait en prenant tout l'espace et sans regarder le découpage technique qui permet de savoir à quel endroit tu vas filmer ou quoi. Mais par contre, elle devait pouvoir me justifier chaque élément de déco et pouvoir me dire lequel des deux personnages qui vivaient dans ce bateau l'avait construit et pourquoi il l'avait fait. Après, elle avait ses libertés de ton pour ça. Et du coup, avec mes acteurs, pour répondre à ta question, on a bossé sur du jeu de rôle. En fait, je leur ai pas donné le scénario avant de... Enfin, je les ai castés, entre guillemets, sans scénario. Et notre premier travail, ça a été de les faire rentrer dans un jeu de rôle que j'avais conçu par rapport à l'univers du scénario, par rapport à l'univers que j'avais développé et en y mettant quelques éléments scénaristiques mais sans que ce soit vraiment le scénario du film. Et ils devaient construire leur personnage au fur et à mesure que le jeu de rôle avançait. C'est-à-dire, c'est un jeu de rôle sur table où on parle juste, on échange l'un à l'autre et ils décrivent les actions qu'ils font, etc. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à construire la psychologie des personnages et que petit à petit, on a modifié aussi le scénario en fonction de eux, la manière dont ils l'avaient ressenti, dont ils l'avaient vécu pendant cette expérience-là.
Ok, en gros, ce que tu es en train d'expérimenter, c'est comment ne pas bosser ?
Oui, exactement. Mais en fait, pendant ce film, j'ai passé mon temps à dire oui ou non, mais pas à... Enfin, je donnais pas d'ordre direct en fait. Il y avait un découpage qui avait été fait, il y avait tout qui avait été préparé en amont, et sur le moment, je donnais mon accord ou pas. Et bon, j'ajoutais quelque chose, mais c'était. Je laissais la place de liberté de création à chacun. Du coup, ça a le désavantage de faire un film où il y a énormément de détails parce que tout le monde se prend au jeu à fond et où c'est peut-être difficile de s'y retrouver dans tous ces détails et où peut-être un fil général se perd du coup. Mais c'est intéressant sur le moment, en tout cas.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Tout à l'heure, Marwani parlait de qu'elle en était à un stade où il y avait, à un moment donné, des confusions, que c'était ça qui était douloureux. Et je sais que de ces confusions-là, des fois, on en sort en faisant des lectures, en montrant le scénario à des gens, en incluant des gens dans notre démarche personnelle. Est-ce que le fait de partir direct, d'inclure les gens très très tôt, est-ce que ça t'a enlevé ces confusions-là ou est-ce que ça t'en a rajouté ? Est-ce que tu vois ?
Bah, je pense que j'ai pas assez d'expérience pour le dire là-dessus, mais sur le projet que je mène actuellement, ça fout le bordel un peu, au contraire. Parce que du coup, je me retrouve avec un projet où il y a des gens qui sont engagés dedans, qui ont travaillé dessus, et où moi je perds un peu ma mainmise, et où au final je suis plus sûr de savoir si je suis d'accord avec le scénario, avec le séquencier qu'on a créé ensemble ou pas, parce que j'ai du mal à voir à quel point ça fait référence avec mon projet à la base, enfin tout s'est mélangé quoi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à expérimenter là-dedans qui peuvent être très intéressantes, mais il faut arriver à le jauger, et arriver à des moments à se garder sa part aussi, à se prendre du recul en fait vis-à-vis de ça.
Normalement, ce que tu es en train de faire là, c'est de défricher le terrain, toi en tant que petit expérimentateur, pour que quelqu'un finalement reprenne le concept, mais en beaucoup plus simple, et réussisse avec.
Voilà, par exemple. Pendant
toi, tu seras en train de. Ouais, oui, bien sûr. Ouais, j'ai que ça à foutre.
Ouais, non, là, c'est au staff, c'est de la recherche, quoi. J'ai aucune idée de. Enfin, c'est juste. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans, mais.
Non, mais c'est hyper intéressant, je trouve. Enfin, bon, après, forcément, la recherche, c'est toujours plus ou moins intéressant. Quoi qu'il arrive, ça intéresse toujours quelqu'un, au moins le mec qui recherche. Après, les gens qui trouvent, on sait pas. Mais du coup, au niveau transition, tout trouvé, j'en ai absolument pas. Mais on va parler d'écriture au tournage. Voilà. J'avoue, j'ai pas du tout eu le déclic dans ma tête pour enchaîner. Mais...
Non, mais c'est bien, c'est des étapes presque chronologiques en fait.
Mais voilà, exactement, mais... finalement, chronologiquement après.
Peut-être que pour faire une transition sonore, on peut écouter un extrait de Rive Day, le film d'Hugo qu'il a fait avec ses acteurs en jeu de rôle. Comme ça, on les entend quand ils étaient sur le tournage et ça nous fait une transition sonore, tu vois.
Voilà.
Voilà.
Eh bien, on écoute ça.
Du coup, on a besoin de. Un gros bout de planche de bois pour le mât, un truc un peu circulaire.
Cylindrique.
Des clous, t'as besoin de combien de clous plus ou moins ?
Une vingtaine.
Et du coup, une hélice à 6 pales.
3.
Quoi ?
3 pales, on a besoin que de 3 planches.
Oui, mais ça fait quand même 6 pales au final.
Bah non. 3 planches, 3 pales.
Non, mais parce que tu comptes à partir du centre de l'hélice. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Pourquoi tu veux compter à partir du centre ?
Mais parce que c'est logique.
3 planches pour l'hélice.
Et du coup, écriture au tournage ?
Baptiste.
Ouais.
Voilà, démerde-toi. Okay. C'est mon lancement. C'est, voilà. Non, mais en fait, l'idée, c'est que toi, t'as fait un court-métrage.
Ouais. Ah bon, on va parler de ça, alors, du coup, on va parler de cette expérience-là.
Voilà.
Ouais.
Où tu avais écrit un scénario. Ouais. Et au tournage, tu as fait beaucoup moins de plans, finalement.
Alors, bah justement, pour le rentrer un tout petit peu dans le contexte, comme je disais, que tu vois, je m'étais lancé tout à l'heure en disant que je ne me considérais pas vraiment comme scénariste. Ouais. Il se trouve qu'en sortant de l'école, moi, ça fait 4 ans. Tu vois, et j'ai pas beaucoup écrit, je sortais avec des projets de scénario, mais j'avais besoin d'écrire avec la caméra à la main, et donc j'essayais au contraire de zapper cette étape de scénario le plus possible, et d'aller de tourner des choses qui étaient du coup beaucoup plus expérimentales, des choses personnelles. Moi j'ai commencé un journal filmé par exemple, que j'ai jamais terminé, et où du coup...
Un journal filmé, c'est-à-dire un journal intime filmé.
Ouais, on peut appeler ça comme ça. Alors,
parce que sinon le journal télévisé ça existe. Hein,
ouais, voilà, ça existe aussi, ouais, j'ai rien inventé. Ouais. Non, mais même là, j'ai rien inventé du tout. Mais on zappe le mot intime, je pense, parce que justement, le but c'est d'essayer au contraire de le donner. D'ailleurs, on pourrait gloser longtemps de savoir si le journal intime il est pas fait aussi pour être ouvert. Mais en l'occurrence, moi j'ai essayé de retrouver, disons, quelque chose de créatif au jour le jour, quoi. Voilà, tout simplement. Et c'est assez enrichissant, peut-être parce que c'était une manière aussi de poursuivre les expériences de l'école, mais en fait assez rapidement je me suis retrouvé dans la forme classique, c'est-à-dire écriture de scénario, anticiper un tournage, constituer une équipe et tout ça. Et il apparaît assez clair que que je me considère pas vraiment comme scénariste, c'est que j'essaye surtout de trouver un bon prétexte pour tourner. Et c'est ça qui m'amuse en fait. Et je passe avec le scénario, je l'utilise comme prétexte pour tourner, quoi. En l'occurrence, là, celui-là, je l'ai construit. Il m'a fallu un an ou deux avant de commencer le tournage. Et c'est peut-être on peut en arriver sur le tournage et les circonstances de production qui font aussi que un film qui était prévu avec de longs plans séquences, par exemple, avait dû être un petit peu changé, un petit peu raccourci. Et que du coup, quand t'enlèves un plan séquence, t'enlèves une partie du scénario, quoi, du coup. Mm. Bon, voilà. Mais ça, c'est parce que c'était des intentions initiales fortes que d'avoir des choses... Quand je dis long plan séquence, c'est pas très long non plus, hein, mais c'est un film qui était avec très peu de plans, et on tournait à 5 ou 6 plans par journée, enfin par nuit de tournage, c'était des nuits de tournage. Donc quand t'en enlèves 20, t'enlèves un bon temps de... Tu vois, on enlève beaucoup de choses. Donc ça a imposé, en effet, une réécriture sur le tournage de quelque chose qui avait pris 2 ans à être construit. Donc évidemment, c'est toujours une petite révolution, hein.
Après, de toute façon, c'est quelque chose qui se fait. Tu disais que le scénario, c'est un prétexte à tourner. De toute façon, le scénario, c'est une base qui est faite pour être transformée et pour être justement transformée au tournage, au montage. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas, à la différence de si tu écrivais un roman, c'est quelque chose qui n'est pas figé. C'est vraiment un outil, quoi. Ouais. Et toi, c'est vraiment ce que tu as fait sur le tournage. C'est-à-dire que tu avais ton scénario, ton prétexte pour tourner, ton histoire. Et après, en fonction des conditions de tournage et puis des choses qui passaient
s'adapte,
ou pas
de toute
aussi,
façon. Oui, t'es obligé ça de permet d'aller à l'essentiel aussi. Mais tu vois, on voit bien très vite que le scénario, même tu vois, dans les étapes d'écriture préalable comme Marouane est en train de vivre et tous, bah il y a déjà tout de suite des gens qui tournent autour et il y a déjà du désir qui très vite émane du projet, donc très vite ça intéresse et puis donc du coup le film potentiellement il existe déjà pour d'autres personnes que pour toi, donc plus le temps s'étale, plus tu arrives sur le tournage et plus tu as des décisions à prendre, plus aussi bah, tu es en train de couper dans ton désir et dans le désir des autres aussi. Et tu es en train de bah, faire ton patchwork avec, avec tout ça. Encore plus quand moi je considère finalement le scénario comme un prétexte pour tourner, et au final, il y a toujours une espèce de. Ça, c'est déjà un puzzle en soi, tu vois, le scénario en lui-même. Ouais. Le plan séquence, film concept, donc puzzle quoi. Donc t'enlèves une pièce du puzzle, qu'est-ce que tu fais quoi. Donc voilà, non mais. Oui, il y a eu des enjeux de réécriture au tournage, comme il y a des enjeux de réécriture au montage. Mais ça, c'est aussi un défaut d'écriture. Hein.
Et tu fais très bien ta transition, parce que le montage, c'est aussi une écriture.
Bah ouais, ouais.
T'es une réécriture. T'es très fort, t'as même pas besoin de nous.
Bon, bah tu vois.
Toi, tu es en montage d'ailleurs. Là.
Ouais, donc du coup, c'est un film qui est au montage aussi, bah, cherche aussi son... Alors, un tempo qui, du coup, est totalement défini par le tournage, en l'occurrence. Alors, c'est exactement le genre de film où tu peux pas. Couper un plan n'importe où quoi, parce que si tu coupes un plan tu reviens pas, principe de plan séquence quoi. Voilà, moi j'éclaircis, c'est pas tant que je tiens au principe de plan séquence, c'est qu'il y a qu'un seul acteur dans le film et qu'à un moment donné si je le filme pas lui je sais voilà, faut partir sur la base quoi. C'est quand voilà, il y a un acteur et donc c'est lui que je filme essentiellement, hein. Et je passe beaucoup de temps d'ailleurs à le regarder des choses sans forcément voir ce qu'il regarde, donc c'est vraiment le principe de base. Je suis pas juste un amour inconditionnel du plan séquence gratuit. Il y a un enjeu à ce que ces plans se durent, s'étalent et se voilà. Et qui a un... donc ouais, il y a des choses. Au montage aussi, on s'en sort pour rattraper le tournage. Quoi.
Parce que du coup, en enlevant des plans au tournage, est-ce que tu. Parce que souvent, quand on est au montage, t'as des plans en plus qui ne vont pas y être au final. Et là, toi, vu que tu as enlevé des plans au tournage, est-ce que t'es dans un truc où t'es dans. Tu t'enlèves la liberté de réécriture au montage, du coup, ou comment ça se passe pour réécrire au montage?
Disons que ça s'essentialise. Tu vois, en l'occurrence, on était passé d'un film que j'avais plus ou moins. Qu'on estimait un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Et c'est un film qui va faire 9 minutes. Quoi. Mmh. Donc évidemment il se resserre quoi. Et je sais pas encore à quel point c'est une perte ou plutôt au contraire quelque chose de toi, je trouve pas d'autre mot qu'essentialisé, mais quelque chose qui se resserre et qui se dynamise quoi. Mais à un moment donné ouais, c'est des choix enfin voilà, tu vois là en l'occurrence c'est encore assez fragile, je n'ai pas de longueur de, tu vois, j'ai pas de portée, je sais pas exactement qu'est-ce que si les intentions initiales seront pérennes et existeront encore à la fin de cette étape de réécriture au montage. Mmh. Je sais pas. C'est pour ça, c'est marrant, hein. On écrit tout le temps.
Ouais, c'est rigolo de toute façon cette attention, transition. Ah. cette chose où t'écris pour 15-20 minutes et au final tu te retrouves avec 9.
9.
Et au final t'as pas écrit pour 9, mais t'avais une façon d'écrire qui était pour 15-20, j'imagine, plutôt que pour 1h30.
Oui, après, et le contexte de production qui a fait aussi, enfin plein de choses qui font qu'à un moment donné.
Transition. Et du coup, 1h30,
ouais.
Écrire un long métrage, toi t'es en train d'écrire un long métrage, Loris.
Oui.
Et du coup, par rapport à 15-20 minutes, comment t'écris différemment?
J'écris mal, beaucoup plus en quantité.
Ouais, d'accord.
C'est vraiment la grande inconnue. Ouais. J'ai pas de code. J'ai eu l'idée il y a un an et demi. J'ai trouvé l'idée de la même façon que je trouvais mes idées de scénario plus court. Sauf que les problèmes qui étaient des détails entre guillemets sur le court métrage sont là des gouffres quoi. Parce que chaque chose un peu fragile. Prend vraiment des proportions différentes. Quoi. Tout d'un coup, les personnages ne peuvent plus avoir la superficialité qui était totalement acceptable sur mes courts-métrages, par exemple. Je suis obligé d'aller plus loin dans beaucoup d'éléments de ce qui se passe. Et aussi, j'ai pas de... Je ne me rends pas réellement compte de la durée. C'est-à-dire qu'il y a une... une envie d'accumulation pour se rassurer. Je rajoute beaucoup d'événements. Et en même temps, je gonfle un peu tout, quoi. C'est comme si vraiment tout devait devenir plus exceptionnel, tout devait être plus important. Et chaque action qui aurait pu être épurée ou traitée de façon un petit peu plus poétique pour correspondre à mon univers, je vais essayer de leur donner une dimension plus gargantuesque, quoi. Il faut que tout d'un coup, il y ait beaucoup de personnes et des actions très vastes, quoi. En sachant absolument pas si ça a du sens ou si c'est grotesque. Donc c'est toute cette question d'amplitude un peu qui pose question. et aussi comment gérer le rythme des scènes les unes par rapport aux autres. Bon.
Et tu parlais tu parlais du fait que tes personnages dans le long métrage peuvent pas avoir la superficialité qui est acceptée au court métrage. Est-ce que on en parlait tout à l'heure quand tu faisais dans les courts métrages que t'as fait que j'ai vu, j'ai l'impression que du coup tu pouvais te permettre un peu de plus de lâcher prise sur comment t'allais aborder ton tournage. Tu disais que tu fantasmais de trouver tes personnages, enfin tes acteurs sur place. Et est-ce que du coup il y a cette différence là, tu vois, de sur le court métrage tu es presque plus libre parce que t'as pas besoin d'aller trop dans la profondeur, alors que sur le long métrage tu vas devoir tout expliquer, tout avoir bien en tête, tout bien cadré.
Alors ça, c'est sûr que pour moi c'est une question de parcours personnel, dans le sens où j'ai appris la vidéo, enfin la pratique du film en autodidacte avant l'école et en faisant du documentaire, de plus en plus intimiste et dans le lâcher prise, quoi, en confrontant la caméra avec un lieu et avec des gens qui avaient envie d'être filmés. C'est vraiment ce que je recherchais. Ensuite, en écrivant de la fiction à l'école, concrètement, je déchirais mon scénario le premier jour du tournage. Et ensuite viennent les contraintes de la production qui sont que je dois tourner ce que j'ai écrit, quand même. Y a des gens qui financent sur scénario, sur dossier, sur note d'intention, et il y a toute une équipe, dont un directeur de production, qui est là pour que tu tournes ce que tu as dit que tu allais tourner. Il y a une question de contrat. Ce qui est très délicat, déjà en court-métrage, c'est une première expérience de devoir tourner toutes les scènes que j'avais écrites. C'est pas la même pression à l'écriture, du coup. On sait que ce qu'on a écrit sur papier, on devra le tourner. Et donc, vraisemblablement, on devra le monter. Enfin, y a une marge de manœuvre, mais ça sera le film, le scénario. Sur un long métrage, j'ai l'impression que c'est encore plus verrouillé, entre guillemets. C'est dans des moyens de production classiques, on va dire, assez mainstream, il va vraiment falloir consolider et être sûr de chaque séquence et de chaque personnage et de chaque intention, parce que y a vraiment énormément de personnes qui vont attendre ce résultat-là. Donc la question de l'improvisation ou de la formation du film pendant qu'il est en train de se faire est quand même un peu plus délicate. En tout cas, me demande ce travail-là d'abstraction qui est difficile d'écriture, c'est de savoir ce que je pense qui va être intéressant, bah, que ça soit intéressant ou pas, je vais le tourner, en fait.
Voilà. Okay. Tu disais que tu n'avais pas les codes pour le long métrage par rapport au court métrage, tu les as un peu plus. Transition. Xavier, a priori, toi, t'es plus sur un jeu avec les codes. Enfin, c'est-à-dire que tu... Voilà, plus sur un jeu avec les codes. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut respecter les codes? Est-ce que c'est important, les codes d'un long métrage, par exemple? Ou d'un court?
D'écriture.
Je sais pas s'il y a vraiment des codes d'écriture, surtout en court métrage, où la liberté formelle est quand même très très vaste.
Elle peut être angoissante, d'ailleurs.
Elle peut être angoissante, tellement elle est vaste. Ouais. C'est vrai que moi, je m'astreins quand même à une forme assez classique en termes de dramaturgie, où y a un personnage qui va d'un point A à un point B, il se passe des choses, on raconte des choses. C'est un cinéma très narratif. Dans cette forme hyper narrative, il y a un truc un peu différent qui arrive, qui est une espèce de zigzag entre la narration, qui fait qu'on prend des chemins de traverse des fois dans le film, et que d'un coup, ben, on passe à autre chose, et puis on revient. Mais il y a toujours quand même le fil narratif qui est là. C'était très vrai sur le film précédent, c'était un peu moins vrai sur le film d'avant, donc avant-dernier, où vraiment c'était un film rocambolesque, c'est-à-dire que, dans la forme rocambolesque pure, c'est-à-dire que il se passait A, donc il se passait B, donc il se passait C, donc il se passait D, donc il se passait E, donc il se passait F, G, H, I, Z.
On voit les codes. Dès qu'on utilise des lettres, voilà. Ça veut dire qu'on... Voilà.
Mais j'ai une approche assez mathématique du truc. Surtout sur ce film-là, qui était vraiment une application assez rigoriste de ça. Le problème, c'est que c'est une chute de domino. Quoi. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, et le dernier domino, ben, généralement, poum, il tombe à plat. Et c'est vrai que le film tombe à plat, du coup. Voilà. Sur l'autre, j'ai essayé de changer un petit peu ça. Ça y est toujours, la forme hyper conséquentielle, c'est-à-dire qu'il se passe A, donc il se passe B, donc il se passe C. Mais là, il y avait vraiment plus d'espace pour aller voir d'autres choses aussi. Le film, à un moment, il prend la tangente à la fois dans l'action des personnages, mais aussi dans le scénario, c'est-à-dire qu'on part sur autre chose, puis on y revient. Et puis on... Voilà, bon, on vadrouille un peu, c'est un peu gloubi-boulga. Et moi aussi, je suis en train de me perdre dans ma phrase, comme je suis en train, des fois, de me perdre dans les scénarios. Cela dit, je respecte beaucoup ce que j'ai écrit à l'écriture, quand j'arrive sur le tournage. Et cette forme... C'est un peu mon fil conducteur, quand même. C'est ça qui me permet, c'est mon cadre dans lequel je vais finalement peu jouer au tournage. Tout est assez préparé. C'est-à-dire que c'est le tournage n'est presque, je vais exagérer, mais parce que, on va me tomber dessus, mais c'est quasiment que l'écriture du scénario avec d'autres mêmes moyens.
Est-ce que c'est pas parce que tu fais des films qui ont plutôt une tendance comique aussi, où oui. Ça demande une rigueur d'écriture qui peut, où tu risquerais de tout casser si tu changeais tout au tournage, quoi?
Oui et non. C'est-à-dire que des fois, on arrive avec une idée de gag. Le problème dans l'écriture comique, c'est que le gag est inclus dans la dramaturgie, enfin, dans certains films. Et c'est-à-dire que du coup, si vous ratez votre gag au tournage, eh ben, soit au montage, vous enlevez votre gag et il y a un trou narratif et on ne comprend pas ce qui se passe. Oui. Soit vous gardez votre gag qui fonctionne plus ou moins bien et on espère que ça passe. Et du coup, bon, ben, les trucs ils vont à plat. Moi, je les garde parce que j'aime bien quand même raconter des histoires qui tiennent la route, entre guillemets. Et du coup, c'est vrai que cette forme comique, elle contraint. Mais en même temps, il faut savoir saisir au tournage les moments d'un coup qui vont apparaître de gags qui ne sont pas imaginés. Ça arrive rarement parce qu'il faut vraiment créer un contexte pour qu'il y ait des gags qui se passent de manière improvisée. La vie, elle offre des gags, mais si on prend une journée de 24 heures, il y a 10% de gags dedans. Donc quand vous tournez...
Effectivement, c'est très mathématique.
Voilà. Il faut avoir de la chance. 10%
de gags, 24 sur 60, on parle de combien de minutes?
Donc il faut vraiment que vous ayez de la chance pour qu'au moment où vous plantez votre caméra, il y ait un gag qui se passe que vous n'avez pas prévu, ou qu'il y ait un comédien, ce qui arrive avec les bons comédiens, qui proposent des choses et qui font monter tout ce que vous avez prévu. C'est-à-dire que d'un coup, il y a l'omelette, les œufs un peu du scénario qui rencontre les œufs des comédiens.
Attention métaphore,
et puis on fait une belle omelette. Et c'est un peu un film. Et là, si ça s'émulse bien ensemble, ça peut donner des super trucs. Par contre, s'il n'y a pas la rencontre, Et ben, ça peut tomber complètement à l'eau. Voilà.
Est-ce que y en a qui travaillent beaucoup aussi sur l'improvisation, justement laisser une place d'improvisation aux acteurs au tournage, ce qui est complètement de la réécriture. Tu le fais? Il y en a qui le font ici ou qu'on testait ça un peu?
Moi, je le fais très très peu.
Toi, Hugo, un peu, non?
Ouais, moi, c'était. La plupart des scènes étaient un peu écrites, mais on avait fait pas mal de répétitions dessus pour que justement tout ce qui était détails et tics, surtout, des petites choses qui reviennent, des choses lors de la communication non-verbale entre les deux acteurs, entre les deux personnages du coup, des choses comme ça se construisent durant le tournage et se développent aussi, même pendant tous les moments off, en fait, c'était de l'improvisation constante. Oui.
Moi, je peux dire un truc?
Bien sûr.
Moi, je lève la main.
Bien sûr, Marwani. Très scolaire, Marwani.
Moi aussi, j'avais testé ce qu'on disait là, sur l'improvisation des acteurs au tournage. Et moi, je sais que je l'avais expérimenté avec le court-métrage que j'avais fait avant, parce que c'était par rapport à la diction et par rapport à la façon de chanter les phrases, de dire les phrases en fonction d'un ressenti sur le moment. Et comme j'avais travaillé avec des comédiens non professionnels, par exemple, la grand-mère, je lui laissais la liberté de s'approprier l'intention de la phrase et de la dire comme si c'était elle vraiment qui le disait. Et du coup, je faisais participer d'une certaine façon les comédiens non professionnels à l'écriture, en fait, en les laissant s'approprier de l'intention des personnages. Voilà.
Okay.
C'est rigolo ce qu'on est en train de faire là, c'est que tout le monde est en train de prendre la parole un petit peu. Bon, peut-être
oui,
pas
oui,
sur
en plus c'est moi qui l'ai distribué, je suis désolée, mais j'avais une idée de question que je trouvais cool, alors je l'ai dite quand même.
Et on va passer sur le disque.
On peut revenir sur Xavier
avec
un
pas...
petit extrait de film.
Oui, ah, bah voilà, pas parfait. Voilà.
Le petit extrait de dialogue, de petit extrait comique de Un avenir radieux.
On
comme
pourra
ça.
Parler des dialogues.
En espérant que ce soit rigolo.
Oui,
c'est pas gagné.
C'est mon avis.
Écoutez, monsieur Bazuri. La littérature, c'est quelque chose? Non, ce n'est même pas quelque chose. C'est une essence, une vie, qui se trouve dans très peu de personnes. Ce n'est pas vous, Bazuri, qui pouvez écrire, qui pouvez penser, même composer les plaisir factice. C'est moi, Baruzi, qui peux le faire. Baruzi, c'est d'abord les R, pas vos misérables Z. Le R, c'est l'affrontement, les rocs, les rochers, les forteresses, les ramifications rageuses d'un renversement. Qu'est-ce que vous pouvez faire, Bazuri, avec vos deux Z, qui sont tout juste ce maintenant d'un moustique? Z. Non, les noms n'ont rien à voir avec les talents.
Ouais, bah, du coup, oui, oui, c'est oui, vrai. Du c'est coup, vrai. Ben, non, mais bien. Du coup, effectivement, sur extrait, ce petit extrait-là, on sent que c'est. Enfin, moi, j'aimais bien ce dialogue-là que je trouve assez drôle et qui est... mais qu'on sent très écrit aussi quand même. On sent une. Enfin, il y a un jeu des mots, il y a quelque chose d'assez réfléchi à la base, je trouve.
C'est pour ça que je fais peu d'improvisation. Mais cela dit, j'aime bien dire cela dit. j'ai un texte de base que j'écris. On le travaille avec les comédiens et je le modifie suite à ça parce qu'il y a des choses qui en bouche que j'avais écrit ne prennent pas. Avec le comédien, alors que des choses ça va marcher avec un autre, mais avec lui ça marche pas. Donc on adapte et on réécrit. Enfin, je réécris pas avec lui, mais je réécris en fonction de choses qui se sont passées dans les répétitions. Et à ce moment-là, c'est le texte qui devient définitif. Mais après, c'est vrai que ces genres de textes ils sont très très écrits. C'est presque. Il y a un truc où j'utilise des allitérations, un truc comme ça. J'ai fait pire dans le suivant même. Avec des rimes dans les répliques qui sont cachées, enfin qui sont pas des rimes versifiées, mais qui sont des syllabes qui répondent à d'autres syllabes, c'est-à-dire que ça devient un truc presque abstrait dans le texte. Donc c'est pour ça que l'improvisation, elle se prête pas trop à ce genre d'approche du jeu. Ouais.
Mais ça se fait beaucoup, là, tu disais pour les répétitions à réécrire, ça se fait beaucoup. Enfin, j'ai fait une lecture il y a pas longtemps pour le film de Marwani justement, où il y a un truc pour les dialogues qui sont très durs à écrire, de les faire lire pour avoir l'oralité en tête, quoi, parce qu'il y a des choses qu'on écrit qui après passent, on dirait que, enfin voilà, que l'acteur va vraiment réciter un texte. Et je trouve que là c'est assez fort parce qu'on sent que c'est écrit sans que ce soit, enfin ça reste oral, quoi. Et il y a cet exercice-là de se rendre compte de ça avant le tournage, quoi.
Ouais, moi j'essaye de voir où est-ce que je peux aller le plus loin possible dans cette frontière entre le, ben c'est écrit et puis c'est oral. Je suis, ben là, je crois que je suis borderline presque. Je trouve qu'il y a certains passages qui sont un peu limites.
Monsieur est taquin.
Ouais. Monsieur est taquin. c'est assez compliqué si en face on n'a pas un acteur qui n'est pas aussi au top niveau. Un demi-acteur sur le truc, ça foire tout. Hein.
Un demi-acteur, ouais. Putain, le terme d'enculé quoi.
Quand même, tu sais, encore je suis gentil. Il y a aussi des quarts d'acteurs.
Tu vois, très mathématique juste au bout.
Notamment pour les figurants, quand tu les fais venir en bus. Hein.
Non, oui. Les figurants, je les aime beaucoup en plus. Aussi. J'adore les figurants.
Ils parlent moins.
Bah, y en a qui aiment bien avoir du texte en plus. On essaye d'éviter. Pardon.
Donc du coup, réécriture à cause des répétitions, réécriture à cause d'autres trucs, réécriture pour les subventions et ce genre de choses. Finalement, l'écriture, c'est que de la réécriture.
Oui, c'est que de la réécriture. Je confirme. Mais c'est une réécriture qui est... Enfin, pour ma part, en tout cas, je sais que ce que j'écris avant, sur les premières versions, généralement, ça arrive facilement à 20, quand tout va bien, c'est pas bon. C'est-à-dire que c'est bon qu'au bout de... Certes, pour moi, je sens que c'est bon qu'à un certain moment.
Mais à quel moment tu sens que c'est bon? Quand c'est, justement, toi, vu que c'est quelque chose de très verbal, quand les acteurs, justement, se l'approprient, que tu te dis, tiens, bon, ça y est, par la force des choses, on est...
Non, c'est avant que les acteurs se l'approprient, ouais. Je sens qu'il y a un truc où j'y suis, où j'ai trouvé... La zone que je cherchais depuis le début. Ouais. Mais c'est un processus.
C'est hyper le clitoris, quoi.
Oui, c'est ça.
Mais c'est, et, clitoris et, du film.
Plus on pratique, en plus ça va vite. Quand
même. Mais oui, c'est vrai.
Ouais, c'est ça.
En parlant de clitoris, moi je sais pas si c'est une question de réécriture, parce que de toute façon, dès que le film il sort, il y a aussi, je sais pas si on peut dire, une réécriture de la part de tous les spectateurs qui regardent ça, quoi. Chacun se fait son propre film, du coup, c'est peut-être le processus du film, c'est le film qui est en train de se faire, mais tout le temps et jusqu'à pas de fin, parce que à chaque fois qu'il se voit, il recommence à être écrit. Bien évidemment, je sais pas comment dire, les dés sont jetés, mais l'expérience de chacun en tant que spectateur fait qu'on donne de l'importance à certains détails que peut-être nous, en tant que réalisateurs ou scénaristes, n'avons pas accordé suffisamment d'importance ou n'avons pas maîtrisé sur le moment, quoi.
Je peux filer la métaphore des dés jetés, c'est-à-dire qu'il y a tellement de dés qu'au final, personne n'arrive au même résultat à la fin.
Le hasard.
Ouais. Donc puis là, c'est des cas très particuliers tous, parce qu'en finalement, on est nos propres scénaristes et on réalise nos propres scénarios.
Ouais, c'est vrai, c'est marrant, oui. Vous faites tout ça.
Non, moi j'avais un...
Oui, bah ça va, toi. Mais toujours moi.
J'avais un scénariste sur le film.
Et ça aide aussi à passer évidemment d'une étape à une autre, à dire bon bah là on n'est plus dans l'étape de scénario, l'étape de réalisation.
Tu as collaboré quand même, enfin il y avait des échanges, il y avait une envie de base de ta part et elle a écrit le truc.
Du coup je me suis dit j'ai envie de faire un film où c'est des spécialistes entre guillemets de leur département, de leur travail qui vont faire les choses. Et du coup moi j'avais une idée, on s'est vu quelques jours, on a travaillé ensemble sur l'univers du scénario, les personnages, les pièces maîtresses, un petit peu les idées. Et après, elle a écrit toute seule. Et ensuite, on a échangé. Et j'ai repris la main à la fin quand je commençais à travailler avec mes acteurs et que du coup, le scénario qui était en train de s'écrire était celui qui allait être celui du tournage où elle n'était pas. Et du coup, pour le montage, qui est aussi une sorte d'écriture à la suite, je travaillais avec une monteuse aussi à côté. Et on a fait un peu pareil, c'est-à-dire qu'elle a pris les images et qu'elle a monté un ours, un premier montage. Basé sur le scénario, sans que moi j'intervienne. Et c'est à partir du moment où il y a eu ce premier montage qu'on a commencé à travailler ensemble et où j'ai repris la main sur les finitions. Ça permet de s'extérioriser un petit peu de la chose, j'ai l'impression. Enfin, ça...
Oui, d'être moins...
Oui, parce que si tous les autres vous scénarisez, vos réalisations, c'est un choix artistique ou c'est une contrainte plus?
Je sais pas, hein. Toi ça va de soi.
Moi ça, l'univers est assez spécifique, donc il n'y avait pas trop d'entrée possible. J'allais dire cela dit.
En plus ça m'énerve, chaque fois que tu dis cela dit, j'ai envie que tu dises ceci dit plutôt.
Bon, ceci dit, sur Un Avenir Radio, donc, dont on vient d'entendre un extrait, j'avais collaboré avec une scénariste qui est arrivée assez tard dans le processus. C'était une fois que le film était financé, mais il n'y avait pas assez d'argent pour le faire. Donc le grec qui produisait le film a décidé de faire appel à une scénariste que je ne connaissais pas pour faire rentrer ce putain de scénario dans ce putain de tournage. Parce que c'était vraiment... Le tournage était très compliqué, il y avait beaucoup de décors, beaucoup d'acteurs. Et donc on a essayé de réduire. Ça, au final, on a réécrit vachement, mais on a rien réduit du tout. Mais bon... La scénariste était passée par là, on ne pouvait plus rien me dire, donc j'ai pu aller tourner mon film comme ça, qui faisait la même longueur qu'au départ. Mais du coup, il y a eu un travail très intéressant, parce qu'elle est rentrée dans cet univers un peu opaque, un peu particulier, je ne sais pas, on va pas mettre des adjectifs, mais... et elle a réussi à arriver avec... Alors je sais qu'elle fait des films totalement différents, mais à arriver à rentrer dans quelque chose qui correspondait à ce que je cherchais. Et ça a été une collaboration très très riche. Elle s'est pas reconduite sur le film suivant, mais elle a quand même collaboré de loin. Enfin, elle m'a relu plusieurs fois sur le film suivant. Et ça, c'est quand même hyper agréable d'avoir un interlocuteur qui comprend tout à fait où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous allez.
Alors, c'est marrant, ça.
Alors, c'est ce que j'allais dire. C'est marrant parce que, enfin, j'avais parlé à Marwani qui, il y a pas longtemps, a eu cette expérience aussi d'une script doctor, donc un docteur du scénario qui vient. Pour essayer de débloquer les blocages et les confusions. Et dans l'extrait sur le reportage sur les ateliers création qu'on a entendu tout à l'heure, Clémentine, une des participantes, parlait de confiance et disait que les gens se regroupaient ensemble à peu parce que la confiance était importante et que quand tu parles de ton scénario, tu es dans un truc un peu vulnérable et tout ça. Est-ce qu'avoir quelqu'un à un moment donné, mais ça marche aussi pour Xavier, qui vient et qui travaille sur ton scénario et qui doit se réapproprier son univers et tout ça, est-ce que c'est pas un peu brutal? Comment ça se passe ce rapport avec quelqu'un qui est là pour t'aider mais qui quelque part te dépossède le premier de ton truc, quoi.
Je pense que là maintenant aujourd'hui je le déteste, mais c'est un peu normal parce qu'on a discuté et il disait qu'au bout d'un moment à chaque fois qu'il bossait avec gens qui écrivaient des scénarios, il finissait par le détester et il l'évitait même parce qu'en fait il faut pas avoir peur d'aller chercher chez toi des trucs, quoi. Et que du coup, l'autre personne va aller toucher des choses que tu n'avais peut-être pas forcément envie de toucher, pas envie de bouger, pas envie de penser. Et que du coup, l'autre personne te pousse à ça. Parce que voilà, on a des cerveaux différents qui fonctionnent différemment avec des logiques différentes. Et qu'il y a vraiment des moments où ça te fait vraiment très chier parce que tu n'avais pas du tout envie de penser à ça, quoi. Et tu es obligé de le faire parce qu'il faut solutionner, ça se dit, des problèmes.
D'accord.
Voilà. Mais c'est très intéressant. Enfin, comme je disais tout à l'heure, l'apprentissage, c'est pas forcément douloureux. Ce qui est douloureux, c'est l'ego, en fait, peut-être au final. Et avec le côté là d'avoir un scénario à soi et qu'après, c'est un peu en contradiction avec cette envie très personnelle, très presque, je sais pas, je dirais narcissique, de faire un film. Et que en fait, il faut le rendre accessible, il faut rendre ça à des spectateurs, il faut savoir le partager. Et que du coup, c'est un exercice constant de savoir partager ça et aussi garder son avis. Parce qu'on est là aussi pour dire quelque chose. Et je pense que c'est quand on parlait aussi de pourquoi on scénarise souvent nos films, c'est parce qu'on a envie de quelque chose. Et qu'on a envie de dire quelque chose. Et on se donne les moyens pour le faire, mais il faut que ça soit aussi quelque chose qu'on puisse appréhender, sinon on fait de l'art contemporain.
Mais l'art contemporain, c'est très bien.
c'est très très bien l'art contemporain. Mais c'est une autre démarche, parce que c'est moins...
Mais du coup, si tu fais pas de l'art contemporain, le cinéma, c'est un art.
Le cinéma, c'est un art institutionnalisé. Et c'est, tous les arts, en fait, ont été institutionalisés depuis longtemps, mais là je vais me perdre. Là. C'est n'importe
quoi. Vas-y, perdons-nous.
C'est pas bien comme question. Est-ce que le cinéma c'est de l'art?
En fait, non, qu'est-ce que c'est
l'art? C'était pas une question, c'est le cinéma c'est de l'art. Enfin, question rhétorique, question. Ouais. Fausse question finalement.
Après, on va vite arriver à qu'est-ce que l'art?
Mais oui, l'art, c'est quoi? Ça a toujours été institutionnalisé.
Je peux répondre à la question de.
Qu'est-ce que l'art?
Non, pas du tout. Je m'y risquerai pas, mais pourquoi je souhaite écrire et réaliser mes films? C'est parce que, encore une fois, pour moi, c'est complémentaire. C'est-à-dire que l'écriture va me plonger vraiment dans ce que tu dis, Marwani, des choses que je veux exprimer par rapport à mon éthique, à ma façon de vivre dans le monde actuel. Il y a des choses que j'ai besoin de dire. Et je me confronte au fait que ça ne fonctionne pas. C'est ce que disait Xavier. Sur des fois, on ne le sent pas. Bah oui, c'est parce que c'est mauvais. Très souvent, c'est mauvais. On a envie de dire quelque chose, mais... il faut inventer une forme pour que cette chose-là, elle fonctionne, elle soit juste. Et pour moi, ça passe par une transformation de soi. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup travailler, mais c'est d'abord comprendre ce qu'on veut dire. Et du coup, très souvent, ça touche à des choses intimes, à des réactions compulsives qu'on a face à ces événements. Et donc, si aussi ce travail d'écriture est douloureux, c'est qu'on est... À un moment, on ne pense plus au film ou à l'histoire, en tout cas pour moi, je parle pour moi, mais on pense à pourquoi on pense à ça, comment on le pense, et comment on pourrait le penser autrement. C'est-à-dire, vraiment, si ça ne marche pas, c'est peut-être qu'on est complètement à côté de la plaque. Et du coup, ça amène à se transformer. C'est ça que je trouve intéressant dans l'écriture.
Et tu ne penses pas que si tu inclus d'autres gens là-dedans, dans ce processus-là, qui eux aussi ont envie de... qui ont cette même vision du monde dont tu parles, ça ne peut pas te permettre d'avoir un... discours qui est un peu plus qui sort de qui est un peu plus argumenté ou du moins qui est un peu plus universel que si c'était juste toi qui a été sur toutes les étapes du début à la fin.
Mais c'est là où je suis sûrement d'accord et pas d'accord avec toi, c'est que pour moi l'universel il est singulier, on touche à l'universel en étant au plus près de sa différence et du coup je le fais, j'intègre toujours beaucoup de gens en faisant lire, je sais pas les autres mais je pense que je fais beaucoup lire. Et je prends vraiment le temps d'intégrer, c'est-à-dire que mois après mois, tout ce qu'on me dit, je le note et je le relis un an après, deux ans après, trois ans après, et je le remets en question toujours sur est-ce que ça a évolué, est-ce que j'étais influencé, est-ce que j'étais d'accord, est-ce que... Mais quelque part, je pense qu'il faut aussi avoir une confiance dans le fait que ce que t'as vu, il n'y a que toi qui le voyais comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il faut rechercher parce qu'on ne traite pas de sujet, en fait. On traite de notre rapport à un sujet. Enfin, voilà. Et sur l'action de la réalisation, c'est que c'est totalement opposé. C'est face à cette espèce d'hermétisme, d'autisme. Là, on est totalement dans la confrontation aux autres, à leurs désirs, au désir des acteurs d'exister, de toute l'équipe, de travailler à sa façon. Et du coup, c'est un travail complètement différent, presque à l'opposé. Quoi.
Ouais, on se confronte au désir de la réalité aussi, qui nous met des bâtons dans les roues.
Voilà, conclusion. Parce que attention, extrêmement frustrant, on a fait une heure d'émission.
D'accord.
Donc je suis désolé, vous allez tous vous tirer maintenant, cassez-vous. non, en fait, parce que là, c'est la conclusion de l'émission diffusée sur Onde Courte, mais on va faire une petite partie en podcast par la suite. Donc je vous remercie en tout cas pour cette première partie. Première partie où on s'est tous, enfin on s'est tous, vous êtes tous présentés par votre travail, par votre rapport au travail, au cinéma. Donc merci à tous. On dit au revoir à l'auditeur qui ne veut pas écouter la suite.
Au revoir l'auditeur qui ne veut pas écouter la suite.
Voilà, trop du cul. et on se rejoint tout de suite pour le podcast. You ever been to Hollywood? All right, let's get some pictures. I love you. I think it's about time you heard these recordings. Allons, silence!
Clap. Le cinéma qui s'écoute.